BW. Droits et libertés.
Second volet cette semaine de notre entretien avec Kumut Aymech, qui a voulu témoigner de la réalité du voyage qu'entreprennent les migrants à leurs risques et périls pour fuir la violence ou la misère et gagner clandestinement l'Europe. Kumut Aymech a fait deux fois ce voyage, la première fois au début des années 2000 quand il a fui la Côte d'Ivoire et la deuxième fois, caméra en main, pour témoigner. Donc son film s'intitule « Revenir ». Il l'a co-réalisé avec le documentariste australien David Fedeli, que vous entendrez aussi en fin d'émission. Au micro, Sandrine Blanchard, bonjour à tous.
Je suis Kumut Aymech, je vis en France.
Kumut Aymech, vous avez décidé, 10 ans après avoir réussi à arriver en Europe, par les voies clandestines, de refaire ce voyage avec une caméra en main. Et dans le film, justement, on voit aussi comment vous semblez découvrir la misère. Il y a notamment cette rencontre avec une Ivoirienne aussi, c'est où, à Lomé, je crois, qui vit dans quelques mètres carrés sous des bâches avec ses deux enfants, qui a un petit coin où elle se lave sans eau. Et vous avez l'air tellement surpris en voyant son logement.
Franchement, c'était beaucoup choquant de constater les faits moi-même de cette façon-là. En plus, je me dis, avec tous les moyens que l'ONU, l'UNHCR peut avoir, et qu'on va jusqu'à trouver ce genre de situation encore pour une mère. Et franchement, même jusqu'à présent, ça me dérange beaucoup. Ça m'a beaucoup perturbé. Tout d'abord, c'est pourquoi même je n'ai pas voulu prendre des petites caméras. Il fallait une grande caméra pour montrer que j'ai vu. Donc, je leur explique, j'ai fait le chemin, j'ai fait le parcours. C'est dans un but de sensibilisation, de présenter cette réalité à ceux qui veulent, je dirais ceux qui ne veulent pas. Celui qui veut parler sur le dictaphone, peut parler sur le dictaphone, avant de le faire. Et c'est même, il y a parfois fait des films, des gens disent non, je ne veux pas, enlève. Ils m'appellent, ils me disent tout de suite, j'enlève. Elle, vraiment, elle, je peux dire, son cas représente beaucoup de cas.
Au Niger aussi, vous rencontrez un jeune garçon qui vit dehors, qui a quelques sacs avec ses affaires et qui dit qu'il n'a aucun soutien, aucune aide de l'État alors qu'il est dans son pays à lui.
Oui, effectivement, c'est cette triste réalité sur laquelle nos dirigeants politiques doivent se pencher. Et voilà, et parfois on se pose des questions, ah mais pourquoi il fuit, c'est des migrants économiques. Mais vous comprenez un peu comment quelqu'un dans son propre pays peut vivre comme ça. Il sait qu'en France quand même, c'est pas tout le monde qui a droit au luxe, qui a le luxe, mais l'État quand même fait beaucoup de choses pour les gens. Mais en Afrique, les gens n'ont pas cette possibilité.
Mais pourtant, c'est censé être maintenant la politique européenne de dire on donne beaucoup d'argent aux États, au Niger notamment, des millions d'euros, pour à la fois qu'ils empêchent les migrants de partir, mais aussi pour que les États combattent à la racine les problèmes économiques des gens, pour qu'ils investissent pour les jeunes, qui créent des emplois. Ça, vous n'y croyez pas?
Oui, franchement, je n'y crois pas. Je pense qu'ils donnent de l'argent à des convalescents, des gens qui veulent s'asseoir et profiter du système. Mais réellement, il y a beaucoup à faire. Quand je vois déjà comment les réfugiés se retrouvent au Togo, comment ils vivent, des gens au Bénin, comment l'effort, ce qui m'a vraiment plu, qui n'est pas passé dans les vidéos, c'est l'effort que j'ai vu que des demandeurs d'asile et réfugiés ont pu fournir pour eux-mêmes, pour leur propre intégration dans la sous-région. Les aides européennes n'arrivent pas toutes à destination. Et je pense que, quelque part, si l'immigration continue de cette manière, je pense qu'il est grand temps de comprendre que c'est parce que les gens n'ont pas réellement, c'est parce que l'aide ne touche pas. Il faut donc revoir cette façon d'aider. Il faut peut-être faire plus confiance aux associations qui sont à la racine avec les immigrés eux-mêmes, qui aident plus vraiment donc les immigrés par leurs maigres moyens. Je pense que si on essaye de financer plus les associations africaines, je pense que l'aide va plus toucher les bénéficiaires que quand on donne vraiment des millions, des milliards à des gens qui ont envie de passer les vacances au Brésil, en Argentine, ça ne touche pas les gens.
Votre film s'appelle « Revenir ». C'est revenir où?
Alors, c'est revenir en Afrique. C'est donc revenir, c'est donc retourner chez soi et c'est de reprendre le chemin. Voilà.
Et quand vous étiez en France, avant de revenir en Afrique, quand vous pensiez à l'Afrique, d'ailleurs, vous pensiez à quoi? Vous pensiez à la Côte d'Ivoire? Vous pensiez à votre voyage?
La Côte d'Ivoire est toujours la chose qui m'a toujours manqué, qui est toujours restée gravée dans ma mémoire. Avec tout ce qui a dû se passer à mon absence, il y a vraiment une très, très grande envie de voir, d'y rester, de vivre et de comprendre beaucoup, beaucoup de choses. La situation reste encore un peu difficile de pouvoir donc réaliser cela. Par contre, le retour quand même n'a pas été quelque chose de facile parce que après des années de vie au Maroc, se retrouver en Europe et puis revenir en Afrique subsaharienne dans le but de passer plusieurs mois, après des années d'absence, il y a d'abord un grand changement. Et surtout quand on se retrouve à la frontière de son pays, on flaire le pays, on sent le pays, on sent les parents proches, on a la possibilité peut-être de les voir. Et dans la même situation, on tombe dans les profonds souvenirs de tout ce qui s'est passé, qui affecte beaucoup. Et c'est même pourquoi j'ai pas voulu appeler les frères, les amis pour dire, venez, je suis là, parce que je suis sûr à 100% que le projet allait jouer.
Je crois que vous êtes papa d'une petite fille qui vit en France aussi. Donc elle va grandir en France, au moins les premières années. Comment est-ce que vous allez lui parler de l'Afrique, de la Côte d'Ivoire, de sa famille?
Déjà, l'éducation en France, c'est une éducation moderne. Il y a aussi la tradition africaine qui s'enseigne peut-être autrement dans les écoles françaises. J'ai jamais fait de cours à ce niveau.
Risque de ne pas en entendre beaucoup parler à l'école en France de l'Afrique et de la culture ivoirienne. Alors, comment lui transmettre ça quand même?
Oui,
Parce qu'elle va être française, elle.
déjà à la maison, je crois qu'elle voit certaines choses en. C'est vrai qu'elle est encore à bas âge. À la maison, déjà, elle va découvrir certaines choses qui sont d'origine africaine. Elle va voir. J'ai la wallet chez moi à la maison. C'est un jeu africain. Et déjà, avec tout ce qui s'est dit en classe, à l'école, je crois qu'elle aura la curiosité, l'envie de connaître là où viennent ses parents. C'est pas elle qui vient de là-bas. C'est moi qui viens de là-bas. Elle est de la France parce qu'elle est née en France. J'espère que d'ici là, les choses changent et que moi, je sois en mesure de pouvoir retourner avec elle un jour pour les découvertes.
Quel est votre statut là actuellement, administrativement parlant?
Je suis réfugié en France. L'accueil, le travail, les conditions de vie en France, ça m'a beaucoup plu. Même encore le système français, que j'ai beaucoup apprécié, la manière dont les gens ont droit à la santé, ont droit à la circulation. Mais par contre, il arrive des moments où je pique un peu de crise quand je me rends compte que je suis obligé de vivre là. Ça m'embête.
Toute dernière question. Votre film se termine sur le fait que vous n'avez pas pu mener à bien votre projet et regagner l'Europe par les voies que vous vouliez, parce que vous êtes bloqué un moment au Niger puis au Bénin. Comment est-ce que vous l'avez vécu cet échec-là?
Ah, c'était vraiment terrible parce que déjà, j'ai laissé beaucoup de choses en France. J'ai pris beaucoup de risques pour partir. Néanmoins, je me suis dit que bon, peut-être c'était pas encore le. Peut-être toutes les conditions n'étaient pas vraiment bien réunies et que cela, ça peut changer. Voilà, je suis en train de me préparer. Donc, revoir tout ce qu'il faut faire pour que, oui, j'ai pu quand même terminer le voyage.
Donc le reprendre là où vous l'avez
Et
interrompu.
c'est ça, voilà. Donc, le reprendre là où je l'ai interrompu. Je crois que j'ai été victime d'un certain retard technologique. Avoir des dictaphones, ça dérangeait beaucoup. Les caméras, même encore, c'était acceptable. Mais avoir un dictaphone en main, oh, mais comment un individu peut avoir un dictaphone? Qu'est-ce qu'il fait avec ça? Donc, quelque part, donc, il y a certaines personnes qui venaient, parce que là, parfois, j'étais jeté comme ça, hein, par terre. Hein. Les gens, ils venaient, ils me regardaient. Hein. Les militaires, les policiers, ils venaient me voir. Ah oui, c'est cet enfoiré, espion qui vient pour espionner. Donc. C'était pas les grosses têtes, mais bon, les éléments qui étaient là, c'est des paroles comme ça qu'ils lançaient chaque fois. Et ils me demandaient, mais qui vous envoie et qu'est-ce que vous faites avec tout ça? Au début, j'étais vraiment sous un grand choc. J'avais donc demandé à mon coéquipier de me prendre des avocats. Au moins, l'avocat allait venir pour éclaircir donc, les choses avec eux. Peut-être ça allait marcher. Voilà. Et donc, voilà, c'est comme ça que je me suis fait déporter à la frontière pour le fait que j'étais en séjour illégal. Et que je n'étais pas autorisé donc de filmer. Moi, quand j'ai fait mes films, je n'avais aucune intention de tout ce qui touche à l'État, tout ce qui. J'avais un programme bien clair dans ma tête, moi-même et les immigrés. raison de départ, réalité sur la route, qu'est-ce qu'il vit, comment il vit et où il va. C'était uniquement ça.
Oh, Komout Aymech, ça fait plaisir de vous voir rire quand même. Aussi, merci beaucoup en tout cas.
Merci à vous.
Komout Aymech a fait son film avec un réalisateur de films documentaires indépendants originaire d'Australie, David Fidili. Ils se sont rencontrés lors du tournage d'un autre film de David au Maroc sur les conditions de vie des migrants aux frontières de l'enclave espagnole de Melilla. Mais David ne parle pas français et Komout lui sert d'interprète. Les deux hommes sympathisent et Komout lui fait part de son envie de tourner un film à son tour sur son périple pour témoigner. Komout part avec du matériel d'enregistrement et reste en contact avec David Fidili. Au moment où il se fait arrêter et confisquer son matériel par des policiers au Niger, ils échangent des messages montrés à l'écran qui trahissent l'épuisement et la peur de Komout. David se sent lui aussi désemparé de savoir son ami si loin et en prison.
Je me sentais presque comme un entraîneur de foot. Il fallait que je sois pour lui un soutien moral, que je sois là dans une situation très difficile. Mais il fallait aussi que je sois celui qui l'encourage à continuer. Parce que lui, qui était en danger, ne pensait bien sûr plus au projet, mais juste à sortir de prison. Et j'ai pu donner à mon éloignement un sens positif en lui donnant constamment une image plus large de la situation. Pas seulement le film, mais je pensais déjà aux éventuelles campagnes médiatiques qu'il faudrait lancer s'il n'était pas libéré, à contacter des avocats par exemple. Je lui ai dit qu'il pouvait être en colère contre moi, mais qu'il fallait qu'il me fasse totalement confiance. Et je crois qu'on a fait ce qu'il fallait à ce moment-là.
And that I believed that we were doing the right things at the time.
C'est la fin de ce magazine. Un grand merci à Komout Aymech et David Fidili, les auteurs du film Revenir. Rendez-vous la semaine prochaine, même endroit, même heure.